Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. Écoutez le premier enregistrement. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le premier enregistrement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre bulletin d'actualité et d'analyse sur les nouvelles technologies et les avancées techniques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Paula Dobrin, spécialiste dans l'EAO, c'est-à-dire l'enseignement assisté par ordinateur. Alors professeur, les ordinateurs vont-ils bientôt remplacer nos professeurs ?
Depuis quelques années, du moins pendant les dernières années bouleversées par la crise sanitaire, on a commencé à se demander sérieusement si les ordinateurs pouvaient remplacer les professeurs ou si l'enseignement à distance pouvait réellement rendre archaïque l'enseignement en présentiel dans les établissements scolaires. Selon moi, difficile de croire que cela puisse arriver si l'on prend en compte plusieurs raisons.
On vous écoute.
D'abord, l'éducation est avant tout une action sociale, une action de transformation d'un individu vers le stade de personnalité harmonieuse, autonome et responsable. Cette action ne peut être accomplie avec succès que par l'interaction, que par un échange direct entre élèves et professeurs. Pour les apprenants, les professeurs sont des guides et des aides. Il ne suffit pas de donner des savoirs, comme tout ordinateur peut faire. Il faut aussi faire apprendre ses connaissances. Les profs expliquent et varient leurs techniques selon le besoin de chacun. Ils reformulent si les apprenants n'ont pas compris un théorème, un concept, une démonstration, le sens d'un mot ou d'une expression. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'ils accompagnent toujours leurs élèves dans leur apprentissage. Ils les écoutent et essaient de comprendre leur façon d'analyser les aspects du monde pour mieux les aider. ce sont des choses dont les ordinateurs ne sont pas capables, du moins pas encore, même si l'arrivée de l'intelligence artificielle apporte de grands changements.
Et le professeur est là aussi pour les accompagner lors d'activités d'apprentissage.
Oui, c'est vrai, car la mission d'un professeur n'est pas que celle de transmettre des savoirs, mais aussi celle de transmettre des valeurs humaines, car le but de l'éducation est de former des individus instruits et éclairés, capables de s'intégrer facilement dans la société. Des valeurs telles que le respect, la tolérance, l'entraide, la solidarité, la bienveillance, l'amour, qui reposent toutes sur la sensibilité et l'émotion, qui sont les attributs des êtres humains, ne pourront jamais être transmises par une machine. Un professeur conseille, encourage, corrige, complimente, stimule et aime ses apprenants, tandis qu'un ordinateur ne saura jamais jouer ce rôle d'acteur social.
Mais les ordinateurs ne sont pas inutiles non plus.
Bien sûr que non, car les ordinateurs peuvent, et devraient même partout, être des outils éducatifs complémentaires. Dans la société actuelle, où le numérique est devenu omniprésent, les méthodes multimédia ajoutent, sans conteste, une note plus ludique et plus interactive au processus d'apprentissage. Ces méthodes motivent et entraînent davantage les apprenants dans leur apprentissage. Cela rend les objectifs plus faciles à atteindre et l'atmosphère pendant le cours plus détendue et agréable.
Donc, tout compte fait, l'ordinateur oui, mais pas sans un prof. C'est cela votre message ?
C'est cela. On peut conclure que l'ordinateur est, bien sûr, un outil indispensable pour les étudiants dans le processus de leur devenir. Il peut faciliter, voire améliorer les apprentissages, mais il ne peut jamais se substituer complètement à un professeur.
Maintenant, écoutez le premier enregistrement une seconde fois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre bulletin d'actualité et d'analyse sur les nouvelles technologies et les avancées techniques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Paula Daubrin, spécialiste dans l'EAO, c'est-à-dire l'enseignement assisté par ordinateur. Alors professeur, les ordinateurs vont-ils bientôt remplacer nos professeurs ?
Depuis quelques années, du moins pendant les dernières années bouleversées par la crise sanitaire, on a commencé à se demander sérieusement si les ordinateurs pouvaient remplacer les professeurs ou si l'enseignement à distance pouvait réellement rendre archaïque l'enseignement en présentiel dans les établissements scolaires. Selon moi, difficile de croire que cela puisse arriver si l'on prend en compte plusieurs raisons.
On vous écoute.
D'abord, l'éducation est avant tout une action sociale, une action de transformation d'un individu vers le stade de personnalité harmonieuse, autonome et responsable. Cette action ne peut être accomplie avec succès que par l'interaction, que par un échange direct entre élèves et professeurs. Pour les apprenants, les professeurs sont des guides et des aides. Il ne suffit pas de donner des savoirs, comme tout ordinateur peut faire. Il faut aussi faire apprendre ses connaissances. Les profs expliquent et varient leurs techniques selon le besoin de chacun. Ils reformulent si les apprenants n'ont pas compris un théorème, un concept, une démonstration, le sens d'un mot ou d'une expression. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'ils accompagnent toujours leurs élèves dans leur apprentissage. Ils les écoutent et essaient de comprendre leur façon d'analyser les aspects du monde pour mieux les aider. Ce sont des choses dont les ordinateurs ne sont pas capables, du moins pas encore, même si l'arrivée de l'intelligence artificielle apporte de grands changements.
Et le professeur est là aussi pour les accompagner lors d'activités d'apprentissage.
Oui, c'est vrai, car la mission d'un professeur n'est pas que celle de transmettre des savoirs, mais aussi celle de transmettre des valeurs humaines, car le but de l'éducation est de former des individus instruits et éclairés, capables de s'intégrer facilement dans la société. Des valeurs telles que le respect, la tolérance, l'entraide, la solidarité, la bienveillance, l'amour, qui reposent toutes sur la sensibilité et l'émotion, qui sont les attributs des êtres humains, ne pourront jamais être transmises par une machine. Un professeur conseille, encourage, corrige, complimente, stimule et aime ses apprenants, tandis qu'un ordinateur ne saura jamais jouer ce rôle d'acteur social.
Mais les ordinateurs ne sont pas inutiles non plus.
Bien sûr que non, car les ordinateurs peuvent, et devraient même partout, être des outils éducatifs complémentaires. Dans la société actuelle, où le numérique est devenu omniprésent, les méthodes multimédia ajoutent, sans conteste, une note plus ludique et plus interactive au processus d'apprentissage. Ces méthodes motivent et entraînent davantage les apprenants dans leur apprentissage. Cela rend les objectifs plus faciles à atteindre et l'atmosphère pendant le cours plus détendue et agréable.
Donc, tout compte fait, l'ordinateur oui, mais pas sans un prof. C'est cela votre message ?
C'est cela. On peut conclure que l'ordinateur est, bien sûr, un outil indispensable pour les étudiants dans le processus de leur devenir. Il peut faciliter, voire améliorer les apprentissages, mais il ne peut jamais se substituer complètement à un professeur.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Écoutez le deuxième enregistrement. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai A, faux B, ou si ce n'est pas dit dans le texte C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement. La science et le progrès avec Vincent Lebier et Laurence Alexandre. Bienvenue à vous deux. Vincent Lebier, vous êtes haut fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances. Laurence Alexandre, vous êtes chirurgienne experte en nouvelles technologies et intelligence artificielle.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Le progrès est aujourd'hui garanti par les résultats, les conquêtes et les triomphes de la science. La science progresse et fonde les croyances dans l'avancée générale de l'esprit. À Vincent Lebier, qui publie « Platon a rendez-vous avec Darwin » et à la docteure Laurence Alexandre, dont le dernier livre s'intitule « Jouissez jeunesse, petit manuel à l'intention de ceux qui choisiraient de ne pas croire à la fin du monde », je demanderai d'abord si cette alliance des sciences et du progrès tient toujours. Les spectaculaires innovations scientifiques qui changent notre vie nous promettent-elles, encore aujourd'hui, la perspective d'un temps prometteur ? Laurence Alexandre.
On a deux choses. On a un spectaculaire progrès technologique avec des conséquences médicales formidables. L'espérance de vie a beaucoup augmenté. N'oublions jamais qu'en 1888, 100% des gens qui avaient une appendicite aiguë en mouraient. On ne savait pas alors opérer l'appendicite. Donc, on a des progrès spectaculaires, mais on n'a pas de progrès de la sagesse humaine à côté. L'homme a maintenant des pouvoirs en matière spatiale, nucléaire, au travers de ce qu'on appelle les technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau qui sont absolument incroyables. Le bébé à la carte, les implants cérébraux qui sont en train d'être développés pour augmenter nos capacités intellectuelles et les objectifs de coloniser l'espace avec des stations spatiales sont des projets absolument incroyables. On pourrait multiplier les exemples des technologies extraordinaires des dernières décennies. Et les sciences humaines ont pris un retard énorme sur la réflexion sur la technologie, l'encadrement de la technologie. Ce décalage est devenu aujourd'hui absolument considérable.
Vincent Lebier ?
Nous sommes effectivement dans les quelques décennies qui vont décider de choses absolument radicales sur notre avenir. Faut-il autoriser ou interdire les implants intracérébraux pour limiter les inégalités cognitives et pour augmenter les capacités cognitives de l'humanité? Faut-il continuer à développer les sciences du cerveau? Faut-il autoriser les manipulations génétiques et la sélection embryonnaire? Faut-il interdire aux parents de fabriquer des bébés à la carte ou faut-il l'autoriser? On pourrait multiplier les exemples de questions auxquelles nous n'avons encore de réponse. Cette réflexion est primordiale. Le pont entre la réflexion philosophique historique et les sciences humaines en général, et puis les technologies NBIC, n'existe quasiment pas. C'est là où se trouve, selon moi, l'avenir prometteur ou pas de l'humanité.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement une seconde fois. La science et le progrès avec Vincent Lebier et Laurence Alexandre. Bienvenue à vous deux. Vincent Lebier, vous êtes haut fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances. Laurence Alexandre, vous êtes chirurgienne experte en nouvelles technologies et intelligence artificielle.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Le progrès est aujourd'hui garanti par les résultats, les conquêtes et les triomphes de la science. La science progresse et fonde les croyances dans l'avancée générale de l'esprit. À Vincent Lebier, qui publie « Platon a rendez-vous avec Darwin », et à la docteure Laurence Alexandre, dont le dernier livre s'intitule « Jouissez jeunesse, petit manuel à l'intention de ceux qui choisiraient de ne pas croire à la fin du monde », je demanderai d'abord si cette alliance des sciences et du progrès tient toujours. Les spectaculaires innovations scientifiques qui changent notre vie nous promettent-elles, encore aujourd'hui, la perspective d'un temps prometteur ? Laurence Alexandre.
On a deux choses. On a un spectaculaire progrès technologique avec des conséquences médicales formidables. L'espérance de vie a beaucoup augmenté. N'oublions jamais qu'en 1888, 100% des gens qui avaient une appendicite aiguë en mouraient. On ne savait pas alors opérer l'appendicite. Donc, on a des progrès spectaculaires, mais on n'a pas de progrès de la sagesse humaine à côté. L'homme a maintenant des pouvoirs en matière spatiale, nucléaire, au travers de ce qu'on appelle les technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau qui sont absolument incroyables. Le bébé à la carte, les implants cérébraux qui sont en train d'être développés pour augmenter nos capacités intellectuelles et les objectifs de coloniser l'espace avec des stations spatiales sont des projets absolument incroyables. On pourrait multiplier les exemples des technologies extraordinaires des dernières décennies. Et les sciences humaines ont pris un retard énorme sur la réflexion sur la technologie, l'encadrement de la technologie. Ce décalage est devenu aujourd'hui absolument considérable.
Vincent Lebier ?
Nous sommes effectivement dans les quelques décennies qui vont décider de choses absolument radicales sur notre avenir. Faut-il autoriser ou interdire les implants intracérébraux pour limiter les inégalités cognitives et pour augmenter les capacités cognitives de l'humanité? Faut-il continuer à développer les sciences du cerveau? Faut-il autoriser les manipulations génétiques et la sélection embryonnaire? Faut-il interdire aux parents de fabriquer des bébés à la carte ou faut-il l'autoriser? On pourrait multiplier les exemples de questions auxquelles nous n'avons encore de réponse. Cette réflexion est primordiale. Le pont entre la réflexion philosophique historique et les sciences humaines en général, et puis les technologies NBIC, n'existe quasiment pas. C'est là où se trouve, selon moi, l'avenir prometteur ou pas de l'humanité.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Maintenant, prenez la feuille marquée d'un stylo. 3e sous-partie. Écoutez le 3e enregistrement. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui le résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le 3e enregistrement.
Et c'est l'heure de retrouver Florence pour son billet sur les technologies numériques. Aujourd'hui, Florence, vous souhaitez nous parler de la détox numérique.
Oui, la technologie présente des avantages indéniables. Elle améliore la productivité, facilite la communication, contribue à la connaissance, etc. Cependant, mal ou trop utilisée, elle crée une vraie dépendance, génère des états proches de l'anxiété ou de la dépression et altère non seulement nos relations, notre mode de vie, mais aussi nos cerveaux. C'est pourquoi une cure de désintoxication numérique peut être bienvenue.
Alors, quelles sont vos recommandations ?
Une détox numérique ou digitale, c'est le processus intentionnel d'abstinence absolue ou conditionnelle d'une partie ou de la totalité de la technologie présente dans notre vie pendant une période spécifique, afin de rétablir l'équilibre et donc le bien-être général. Une cure de désintoxication numérique est un moyen de donner au cerveau un repos bien mérité. Une pause est importante pour la mémoire, l'apprentissage et la réduction de l'anxiété. Les médias sociaux fonctionnent par exemple avec les notifications. Lorsque nous recevons un like ou un commentaire positif, notre cerveau libère de la dopamine et nous éprouvons une sensation de bien-être. Nous associons donc généralement les médias sociaux et les smartphones qui nous permettent d'y accéder aux bonnes nouvelles, à la validation sociale, à l'attention et à l'engagement social.
Mais tout cela n'a pas que des effets positifs, n'est-ce pas ?
Nous le savons, la puissance de la technologie pour nous rendre plus efficaces, plus informés et plus engagés peut également nous rendre plus isolés et déconnectés de ce qui compte vraiment.
Comment faire alors pour s'en défaire sans pour autant la supprimer complètement de notre vie ?
Heureusement, il existe une solution qui consiste à créer un tampon, un espace ou un vide, si vous préférez, entre la vie réelle et l'utilisation de la technologie, en pratiquant un jeûne numérique. Voici 5 façons de faire une détox numérique. 1. L'immersion totale, qui consiste à choisir une période donnée, entre 3 jours et 3 semaines, pour couper complètement de toute technologie et de tout contenu numérique. 2. La détox périodique, qui ne concerne qu'une partie de la journée ou de la semaine. 3. La détox des médias sociaux, qui consiste à éliminer les médias sociaux de votre vie quotidienne pendant une période déterminée. 4. La destination détox, qui consiste à utiliser des vacances ou un voyage comme moyen de couper le lien de dépendance numérique. Et 5. Le jeûne de contenu, lors duquel vous éliminez également toutes les autres formes d'information et de divertissement appelées contenu.
Et dans la vie de tous les jours, sinon ?
Laissez votre téléphone à la maison. Le simple fait d'avoir un téléphone à proximité place le cerveau en état d'attente et d'alerte. Entraînez-vous régulièrement à ne pas l'emmener avec vous lorsque vous êtes en promenade, en train de déjeuner, etc. Des milliers de gens l'ont fait pendant des générations. Vous pouvez y arriver également. Et redécouvrez le plaisir d'un vrai livre imprimé ou d'un carnet de notes. Changer ses habitudes stimule le cerveau. Prenez des notes, griffonnez lors de réunions ennuyeuses, écrivez des poèmes, coloriez, dessinez, peu importe. Soyez créatif. Le rapport à l'objet génère un plaisir physique que le numérique est incapable de nous donner. Et surtout, désactivez les notifications. Supprimez les distractions et tout ce qui n'est pas essentiel. Si vous vous permettez d'être interrompu 5 fois en une demi-heure, vous ne vous concentrez jamais vraiment sur ce que vous faites.
Merci Florence pour ce billet, certes très rafraîchissant ce matin. Allez, on lâche tous son téléphone et on écoute la chanson suivante en fermant les yeux.
Maintenant, écoutez le troisième enregistrement une seconde fois.
Et c'est l'heure de retrouver Florence pour son billet sur les technologies numériques. Aujourd'hui, Florence, vous souhaitez nous parler de la détox numérique.
Oui, la technologie présente des avantages indéniables. Elle améliore la productivité, facilite la communication, contribue à la connaissance, etc. Cependant, mal ou trop utilisée, elle crée une vraie dépendance, génère des états proches de l'anxiété ou de la dépression et altère non seulement nos relations, notre mode de vie, mais aussi nos cerveaux. C'est pourquoi une cure de désintoxication numérique peut être bienvenue.
Alors, quelles sont vos recommandations ?
Une détox numérique ou digitale, c'est le processus intentionnel d'abstinence absolue ou conditionnelle d'une partie ou de la totalité de la technologie présente dans notre vie pendant une période spécifique afin de rétablir l'équilibre et donc le bien-être général. Une cure de désintoxication numérique est un moyen de donner au cerveau un repos bien mérité. Une pause est importante pour la mémoire, l'apprentissage et la réduction de l'anxiété. Les médias sociaux fonctionnent par exemple avec les notifications. Lorsque nous recevons un like ou un commentaire positif, notre cerveau libère de la dopamine et nous éprouvons une sensation de bien-être. Nous associons donc généralement les médias sociaux et les smartphones qui nous permettent d'y accéder aux bonnes nouvelles, à la validation sociale, à l'attention et à l'engagement social.
Mais tout cela n'a pas que des effets positifs, n'est-ce pas ?
Nous le savons, la puissance de la technologie pour nous rendre plus efficaces, plus informés et plus engagés peut également nous rendre plus isolés et déconnectés de ce qui compte vraiment.
Comment faire alors pour s'en défaire sans pour autant la supprimer complètement de notre vie ?
Heureusement, il existe une solution qui consiste à créer un tampon, un espace ou un vide, si vous préférez, entre la vie réelle et l'utilisation de la technologie, en pratiquant un jeûne numérique. Voici 5 façons de faire une détox numérique. 1. L'immersion totale, qui consiste à choisir une période donnée, entre 3 jours et 3 semaines, pour couper complètement de toute technologie et de tout contenu numérique. 2. La détox périodique, qui ne concerne qu'une partie de la journée ou de la semaine. 3. La détox des médias sociaux, qui consiste à éliminer les médias sociaux de votre vie quotidienne pendant une période déterminée. 4. La destination détox, qui consiste à utiliser des vacances ou un voyage comme moyen de couper le lien de dépendance numérique. Et 5. Le jeûne de contenu, lors duquel vous éliminez également toutes les autres formes d'information et de divertissement appelées contenu.
Et dans la vie de tous les jours, sinon ?
Laissez votre téléphone à la maison. Le simple fait d'avoir un téléphone à proximité place le cerveau en état d'attente et d'alerte. Entraînez-vous régulièrement à ne pas l'emmener avec vous lorsque vous êtes en promenade, en train de déjeuner, etc. Des milliers de gens l'ont fait pendant des générations. Vous pouvez y arriver également. Et redécouvrez le plaisir d'un vrai livre imprimé ou d'un carnet de notes. Changer ses habitudes stimule le cerveau. Prenez des notes, griffonnez lors de réunions ennuyeuses, écrivez des poèmes, coloriez, dessinez, peu importe. Soyez créatif. Le rapport à l'objet génère un plaisir physique que le numérique est incapable de nous donner. Et surtout, désactivez les notifications. Supprimez les distractions et tout ce qui n'est pas essentiel. Si vous vous permettez d'être interrompu 5 fois en une demi-heure, vous ne vous concentrez jamais vraiment sur ce que vous faites.
Merci Florence pour ce billet, certes très rafraîchissant ce matin. Allez, on lâche tous son téléphone et on écoute la chanson suivante en fermant les yeux.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez maintenant le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie, le test continue à la page suivante.